Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Violette Voldoir, Caroline Bonin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde par Alexandre Dang. Suite de notre série consacrée au monde souterrain, après avoir évoqué la question des tunnels en temps de guerre, l'avenir de l'urbanisme souterrain qui devrait se développer sous l'urbanisation galopante de notre monde, on va parler ce matin des ressources minières. On a souvent parlé ces dernières années de minerais du conflit, de minerais de sang, issus notamment de la République démocratique du Congo, des minerais accusés d'être à l'origine de conflits meurtriers, notamment dans cette région du Kivu, à l'est du pays, pour satisfaire l'appétit croissant des multinationales. Ressources minières, la loi du plus fort, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Beaucoup de morts ici, par exemple, il ne manque pas de trentaine de morts. Tous les combattants voulaient gagner des matériels et des matières comme coltan et cassis. Et on ne sait pas si on est maintenant assuré de la sécurité, puisque on souffre quelque part, on parlait, il y a encore des intérêts. Ils font des pillages dans certains villages ici.
Les zones toujours dans lesquelles on retrouve cette matière, elle est souvent occupée par les étrangers et qui, ça leur sert de financement. Quoi. Disons que le problème prend deux aspects. Ça prend l'aspect politique et l'aspect économique. Aspect politique parce qu'il y a toujours l'étranger qui est sur le sol congolais et qui doit partir de ce sol-là pour rentrer chez lui. Mais entre-temps, ils sont en train de voler le produit congolais. Les étrangers s'enrichissent.
Le tantal, trois métaux parmi d'autres, indispensables à la fabrication de nos smartphones, de nos ordinateurs, mais aussi au développement de l'éolien, du solaire, des batteries de nos voitures électriques. Mais des métaux rares dont l'extraction provoque des situations de violence et de conflits depuis de longues années. En juillet 2010, le Congrès américain adoptait la loi Dodd-Frank. Objectif, obliger les entreprises américaines à certifier l'origine des minerais qu'elles importent. Une loi jugée peu efficace et même contre-productive par certains observateurs. Donald Trump a d'ailleurs annoncé son intention de la suspendre par décret, alors que le Parlement européen, lui, avance vers une réglementation plus contraignante, censée être entrée en vigueur en 2021. Quels sont les liens entre extraction minière et conflit? Comment enrayer le cycle de violence qui accompagne de façon presque systématique l'exploitation des minerais dans les pays africains, à tel point qu'on a pu parler de malédiction des ressources, malédiction des minerais sur ce continent? Les législations américaines et européennes mises en place pour renforcer la transparence des multinationales sont-elles suffisantes? Quels sont d'ailleurs leurs effets? Et que pourraient, que devraient faire les États dont les ressources attirent justement les convoitises des entreprises étrangères? Pour évoquer toutes ces questions, ce matin, nous avons invité en duplex depuis Grenoble, Bertrand Kameny, docteur en sciences politiques, chercheur associé au Centre de recherche et d'analyse géopolitique, le CRAG de l'Université Paris 8. Et vous êtes également Apolli Bertrand Kameny, enseignant, chercheur à l'Université de Libreville. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on va commencer avec l'actualité. Début février, le nouveau président américain a mis sur la table ce projet de remise en cause de cette loi dite Dodd-Frank, donc votée en 2010, qui obligeait ces entreprises américaines cotées en bourse de publier ce qu'elle verse aux États miniers et d'assurer la traçabilité des matériaux utilisés dans ces produits contenant justement ces minerais susceptibles de financer des groupes armés. Ce projet de Trump vise donc à revenir sur cette réglementation, considérant qu'elle est trop contraignante pour les entreprises américaines. Quel regard vous portez, Apolli Bertrand Kameny, justement sur cette remise en cause, sur l'idée que cette loi serait défavorable, trop contraignante pour les entreprises américaines?
Oui, c'est vrai que la position de Donald Trump ne saurait laisser l'observateur que je suis indifférent. Et c'est aussi vrai que cet argument est avancé depuis longtemps, hein, par l'ensemble des entreprises occidentales qui estiment que toutes les politiques de bonne gouvernance qui exigent la transparence leur sont défavorables face aux concurrents qui n'en tiennent pas compte. Et donc, et c'est vrai que dans le cas américain, il y a cette part, il y a ce facteur, il y a cette dimension qui intervient. Mais en réalité, la question est beaucoup, beaucoup plus complexe, d'autant que, justement, de l'autre côté en Afrique, vous l'avez dit, on estime que, de la même manière, cette loi pénalise les acteurs locaux qui ne peuvent plus vivre de leurs ressources.
Mais justement, quelle est votre opinion sur ce point-là ? Parce qu'effectivement, on a ces partisans de cette loi qui disent qu'en gros, elle a permis de réduire quand même une source de financement importante pour les groupes armés, et puis on a les opposants qui disent même au contraire qu'elle exacerbe les tensions. Votre opinion, vous ?
Oui, vous faites bien de parler de mon opinion, parce que en fait, c'est ceux qui sont sur le terrain qui sont les mieux indiqués pour voir, pour évaluer les évolutions, les changements qui sont apparus à la suite de cette loi. Mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit sérieux que dès lors qu'il s'agit de l'Afrique, on soit toujours entre la peste et le choléra, si vous me permettez cette expression. Parce que la loi intervient, la loi de l'administration Obama intervient à un moment absolument désastreux. C'est-à-dire que on avait déjà évalué, fait le décompte, montré que le conflit en RDC est le conflit le plus meurtrier depuis celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui faire croire que la situation antérieure était plus intéressante. Je pense pas. Mais, en même temps, je reconnais qu'effectivement, cette loi, parce qu'elle avait été prise unilatéralement, bien qu'ayant limité le conflit, notamment les sources de financement des groupes armés, n'est pas suffisante, même si, de mon point de vue, je pense que elle est nécessaire.
Pas suffisante, j'imagine que c'est la même chose concernant cette nouvelle réglementation européenne qui devrait entrer en vigueur d'ici 2021. Là aussi, les entreprises importatrices de l'Union européenne qui se trouvent en début de chaîne de production, et ça veut dire y compris les fonderies et les raffineries, qui devront s'assurer que les métaux utilisés sont sans lien avec les conflits armés sur place. Est-ce que ça vous semble être une avancée intéressante de nature précisément à ralentir ce cycle de violence ?
Il me semble qu'on ne peut ne pas reconnaître une volonté politique, notamment à l'échelle de l'Union européenne, d'essayer d'apporter des solutions à cette crise, à ce problème, qui, on l'a dit, est totalement désastreux pour ce pays. Mais une fois de plus, c'est très très insuffisant. Très très insuffisant en raison notamment de la complexité, de la complexification des chaînes d'approvisionnement. Vous savez que depuis quelque temps, on n'évalue plus l'origine des produits, des matériaux en fonction d'un pays de départ. Quand on considère une tablette américaine, on voit bien qu'il y a plusieurs centres de fabrication, et donc la traçabilité est extrêmement complexe. C'est pas évident. Donc, à mon avis, l'intention est bonne, mais arriver jusqu'au bout sera extrêmement difficile en raison de la complexification des chaînes d'approvisionnement.
On l'oublie parfois, Paul-Bertrand Caméni, mais c'est quand même bien de le rappeler. Cette exploitation minière, c'est un domaine absolument central aujourd'hui. Les minerais précieux sont présents, je le disais un peu tout à l'heure dans mon introduction, dans tous les secteurs, et notamment les secteurs de pointe, dans toutes les nouvelles technologies notamment. Ce qui fait quand même de cette extraction minière un enjeu stratégique de premier rang. Or, on a le sentiment que quand même, dans le débat public, c'est... Alors évidemment, on en parle, mais ce n'est peut-être pas à la hauteur de justement ce qu'elle représente en termes géostratégiques. Stratégique.
Je pense que là, vous me posez une question absolument fondamentale, parce que, en fait, c'est ce qui a motivé mes recherches depuis quelques années, à savoir qu'on vit une situation absolument paradoxale. C'est-à-dire que, d'un côté, plutôt que de citer les domaines dans lesquels on utilise les minerais, notamment les minerais stratégiques, pour en prendre la mesure, il vaudrait mieux se demander s'il y a des domaines où on ne s'en sert pas. Donc, considérons par exemple le cuivre. Le cuivre contribue de manière essentielle à la régulation de l'économie mondiale, j'ai envie de dire, depuis 10 000 ans. Aujourd'hui, très peu de gens en parlent. Donc je pense que c'est une question centrale. Donc, de l'autre côté, on a ce vide. C'est vraiment un vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt, de recherche. Les sciences sociales ne s'y intéressent pas particulièrement, si ce n'est du point de vue du développement durable.
Oui, et puis vous parlez de développement durable, pardon de vous couper, mais là aussi, il y a un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'on répète à l'envi qu'il faut absolument accélérer cette révolution, notamment la révolution énergétique, pour préserver l'environnement. Et en réalité, cette révolution énergétique, eh bien, elle nécessite justement ces fameux matériaux rares dont on parle. Paradoxalement, ce qui est d'une certaine manière bon pour la planète n'est pas forcément bon pour la paix des régions riches en ressources minières. Et alors là, je voudrais vous interroger, Apolie Bertrand Kameny, justement sur ce point, parce que pour vous, il y a vraiment une corrélation très forte entre la conjoncture économique, les avancées technologiques, et puis justement les conflits politiques et sociaux, notamment bien sûr dans ces pays africains qui sont directement concernés par ces ressources. Vous écrivez, le déclenchement, la poursuite et la fréquence des conflits en Afrique s'articulent constamment avec la conjoncture économique et les avancées technologiques internationales.
Bon, évidemment, naturellement, la plupart de ces conflits impliquent nombre de facteurs, mais à un moment donné, avec le recul, on voit quand même certaines tendances, certaines constances au-delà des circonstances. Et je pense que j'ai essayé de démontrer dans mon livre, il n'est pas parfait, mais j'ai essayé de faire cette démonstration, à savoir que dès lors que d'un côté, la plupart de nos innovations, la plupart des industries, en tout cas l'économie tout entière, dépend du tableau périodique, c'est-à-dire le tableau des métaux, des minerais que l'on étudie en chimie.
Le fameux tableau de Mendeleïev.
Exactement. Donc, d'un côté, il y a ce tableau qui conditionne les innovations technologiques et industrielles. Et de l'autre, pour passer des innovations telles qu'elles sont découvertes, développées dans les laboratoires, aux exploitations industrielles et économiques, il faut des quantités exponentielles de ces ressources rares. Et à mon avis, jusque-là, on n'a pas encore pu procéder autrement.
Mais Apolie Bertrand Kameny, permettez-moi peut-être de faire une critique justement de votre livre, si vous me le permettez justement. Parce que dans l'introduction...
Mais bien sûr, il est critiquable, bien sûr.
Donc je rappelle, minerais stratégiques, oui. Enjeux africains. Vous rappelez dans l'introduction, vous retracez un certain nombre de conflits qui ont secoué notamment le continent africain au cours du XXe siècle, depuis l'Afrique du Sud au Sahara occidental, en passant par la Namibie, par le Niger, par le Congo, évidemment. Le contrôle des ressources minières ont produit, vous le dites, de très nombreux conflits, depuis les indépendances jusqu'aux révoltes arabes. D'ailleurs, vous le mentionnez, vous vous rappelez que du côté de la Tunisie, eh bien, il y a eu beaucoup de révoltes justement autour de ce fameux site extrêmement riche en phosphate, depuis lequel finalement tout est parti, ces fameuses mines de Gafsa. Par ailleurs, vous rappelez au fond que le caractère belligène de ces mines, eh bien, il s'est démontré sur tous les continents, en Amérique latine, en Asie, vous l'évoquez, en Europe, en Océanie, on a l'impression, à vous lire, que finalement tous les conflits du monde s'expliquent par le prisme du contrôle de ces ressources minières, sans remettre en cause évidemment que le fait que ces richesses, les richesses d'un pays en ressources naturelles, peut constituer bien sûr un facteur de conflit. On a quand même l'impression que vous cherchez à expliquer un peu tous les conflits par la question justement des ressources minières. Ce qui voudrait dire que ces ressources minières, elles engendrent inexorablement des conflits, ce qui n'est pas forcément le cas.
Et je vous remercie de me poser cette question parce que, en fait, effectivement, cette impression peut ressortir du livre. Mais en fait, il faut partir. Mais je pense que vous l'avez souligné dès le départ. Je voulais surtout souligner un paradoxe. Le fait que, bien sûr, à des degrés divers, ce facteur est présent dans les conflits, ne serait-ce que parce que c'est au cœur des moyens des luttes. Avant même d'être des enjeux de pouvoir, il faut avoir des ressources comme moyen de lutte. Et je pense que si, par exemple, ce livre a été imprimé, c'est parce que, généralement, on ne mentionne pas cette dimension. Mais tout naturellement, tout conflit a des dimensions absolument diverses, bien sûr. Mais encore une fois, vous conviendrez avec moi à la lecture de l'ouvrage que pour la plupart des conflits qui sont mentionnés, généralement, le traitement ne tient pas compte, en tout cas pas suffisamment compte de cet enjeu. Vous venez de parler du cas tunisien. Est-ce qu'il y a tant de recherches que cela, tant d'approches que cela, qui précisent, je dis bien, simplement préciser que, de manière factuelle, les choses sont parties du complexe minier de Gafsa? Pas beaucoup. Et puis, sur la longue durée, on voit que Gafsa, comme lieu de cristallisation de conflits, cela date du 19e siècle. Donc en fait, c'est surtout, oui, je pense que je n'ai pas suffisamment précisé, il y a possiblement confusion, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment mentionner l'omniprésence de cet enjeu, ne serait-ce que parce que ça fournit les moyens de conflits.
Je vous l'accorde et j'en ai fini pour les critiques à Polybertrand Kameny. Je voudrais qu'on avance un petit peu et qu'on évoque peut-être certaines ruptures, disons, géopolitiques, géostratégiques, qui sont particulièrement intéressantes pour notre sujet du jour. Parce que, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, les indépendances africaines n'ont évidemment pas du tout été un moment de remise en cause de l'ordre minier occidental en Afrique. On parlait de la RDC, c'est vrai que le Congo, rappelons-le, a obtenu son indépendance en 1960 et à l'époque, les Occidentaux précisément influent beaucoup sur le cours politique des choses, en faisant notamment, on s'en souvient, assassiner Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, et puis en plaçant à la tête du pays Mobutu. Clairement, là, il était question de s'assurer, d'une certaine manière, de cet accès très privilégié, disons-le comme ça, aux ressources et notamment aux métaux précieux. Les années ont passé, des choses ont changé, et notamment, un des points peut-être fondamentaux que je voudrais aborder avec vous à présent, c'est la question de la Chine et de son arrivée sur le continent. D'abord, cette Chine, elle est évidemment de plus en plus demandeuse de ressources minières. Elle est aussi de plus en plus présente dans les États qui en disposent. En quoi est-ce que finalement la montée en puissance de Pékin et de ses besoins modifie selon vous les logiques conflictogènes autour justement de ces ressources minières africaines ?
Ben, là également, j'ai essayé d'éviter des analyses binaires, même si concrètement, j'y replonge. En fait, l'élément central pour comprendre le basculement, les grands changements survenus avec l'arrivée de la Chine, c'est un concept que j'appelle l'intercontinentalité. Donc, pour comprendre, à mon avis, il faut partir de l'intercontinentalité de l'Afrique. C'est quoi l'intercontinentalité ? En fait, au cours du 19e et du 20e siècle, les centres économiques et industriels étaient autour de l'Atlantique Nord. Et donc, l'Afrique était perçue surtout comme le sud de l'Atlantique Nord. Et donc, on y allait s'approvisionner. Et avec l'émergence de l'Asie en général et de la Chine en particulier, l'Afrique est perçue davantage comme la rive occidentale de l'océan Indien. Et donc, à partir de là, on va voir un basculement à partir de ce que j'appelle la ligne de Fashoda. Donc les centres d'exploitation, de rivalité, de conflit vont passer à l'est de l'Afrique et c'est entre autres pour cette raison fondamentale que l'on assiste à ces développements de conflits à l'est du Congo, au sud du Soudan et aujourd'hui même en Ouganda. Et voilà. Donc, c'est la montée de la Chine est absolument essentielle dans la transformation et l'intensification de la conflictualité autour des ressources minières.
Alors, elle participe, vous le dites, à cette intensification des conflits. Mais regardons les choses, j'allais dire, d'un point de vue très local et ce qu'il se passe très concrètement lorsqu'on passe des accords d'exploitation. Quand Pékin passe un accord d'exploitation avec un de ces pays africains, parlons par exemple de la RDC, est-ce qu'ils sont plus avantageux que les anciens accords historiquement passés avec les Occidentaux ? Est-ce qu'ils sont différents, ces accords ?
Exactement, c'est ça la question. C'est surtout c'est se demander est-ce qu'ils sont différents ? À mon avis, oui et non. Peut-être qu'ils sont différents dans le sens où on promet des infrastructures en échange des ressources. Et donc, si cela est concrétisé, les populations locales pourraient attirer un certain nombre d'avantages parce que, à la suite d'un chemin de fer, on estime qu'il y a automatiquement un développement économique à 25 km à la ronde. Mais, à mon avis, je pense que pour vraiment comprendre les enjeux, peut-être qu'il vaudrait mieux dépasser cette logique, cette vision binaire. Parce que, en réalité, il n'y a pas dans l'histoire des bons et des méchants. Par exemple, pour les partenaires africains, j'illustre ça très souvent de manière imagée en disant que l'Afrique est l'une de ces rares régions où les ministères de mines ont précédé les écoles de mines. Donc, en fait, il y a un véritable enjeu stratégique au niveau de la compréhension des enjeux par les acteurs africains.
J'entends parfaitement ce que vous dites à Paul-Bertrand Kameny. Oui. Il n'y a pas des bons et des méchants. En revanche, il y a des bons et des mauvais contrats, et des bons et des moins bons ou des moins mauvais contrats. En l'occurrence, on peut peut-être comparer les deux. Il y a des pourcentages, il y a des retours, il y a évidemment des gains, des taxes, des impôts, tout ça. Concrètement, est-ce que lorsqu'une entreprise chinoise exploite un site africain, est-ce que c'est plus intéressant pour l'État africain concerné que lorsque c'est une entreprise occidentale qui est là depuis, disons, quelques décennies ?
Je pense que ce n'est pas nécessairement la question centrale. D'une part, on l'a dit avant, parce que bon, les ressources peuvent aller en Chine, mais elles peuvent également revenir en Europe et aux États-Unis. Ou ailleurs. La question centrale, c'est la capacité des États africains à mobiliser des experts qui peuvent comprendre les enjeux, notamment au niveau... Vous parlez de mauvais contrats. Évidemment, il y a des mauvais contrats. Mais c'est souvent, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a des problèmes de corruption, de malgouvernance. Évidemment, évidemment. Mais avant, il y a aussi le problème de l'expertise pour la saisie des enjeux, pour négocier. Je pourrais prendre un cas très, très concret. C'est celui du Burkina Faso. Lorsqu'en début des années 2000, les entreprises nord-américaines et canadiennes en particulier jettent leur dévolu sur ce pays pour l'extraction d'or, le gouvernement burkinabé avait lancé un appel international pour dire voilà, il y a un flux, pour ne pas dire un flot d'entreprises qui arrivent et nous n'avons pas d'experts, nous n'avons pas de spécialistes pour nous aider à négocier des contrats. Donc à partir de là, on peut penser que le jeu est faussé. Donc cette question me paraît centrale parce que, en fait, c'est lié à la formation, au système éducatif qui est complètement décalé des enjeux stratégiques nationaux et locaux.
On parle toute cette semaine du monde souterrain, des mondes souterrains. Aujourd'hui, ressources minières, la loi du plus fort. On est avec Paul-Bertrand Kameny, chercheur associé au Centre de recherche et d'analyse géopolitique de l'Université Paris 8.
France Culture, Culture Monde. Florian Delorme.
On va rester sur la RDC. Aujourd'hui, ce pays est plongé, on le sait, dans une crise politique profonde. Pour rappel, quand même, quelques éléments. Le président Joseph Kabila a refusé de quitter le pouvoir alors qu'il arrivait à la fin de son mandat, et que la Constitution l'empêchait normalement de se maintenir. Joseph Kabila a succédé à son père, Laurent Désiré, arrivé lui à la tête de l'État au moment de la chute de Mobutu dont on parlait dans les années 90. Et puis, à la fin de l'année dernière, on a eu ces discussions qui avaient eu lieu entre le régime et l'opposition sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Elle avait abouti un accord, mais qui est très loin d'avoir réglé les conflits politiques. Et puis par ailleurs, peut-être aussi dernier élément à ajouter dans le paysage, rappeler que l'opposant historique, perdant malheureux face à Kabila en 2011, Étienne Tshisekedi, est décédé il y a quelques semaines maintenant. On va retrouver une nouvelle invitée par téléphone, Colette Breckmann, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, notamment pour le quotidien Le Soir. Vous tenez d'ailleurs un blog qui s'appelle Le Carnet, qui est hébergé justement par le site du Soir. Ça fait très longtemps que vous vous intéressez à la RDC, qui s'enfonce, je le disais, dans une crise sans fin. La semaine dernière, on a retrouvé les corps sans vie des experts de l'ONU qui avaient disparu. depuis des mois, dans notamment le Grand Kassai, dans le centre du pays, on a des violences récurrentes qui opposent les forces de l'ordre et puis une milice. D'ailleurs, hier, on a annoncé la découverte de nouveaux charniers dans le Kassai. L'ONU parle d'au moins 400 morts. De la même manière, il y a eu des massacres du côté de Beni, dans le nord Kivu. Vous avez très récemment, Colette Breckmann, il y a quelques jours, publié un billet sur votre blog intitulé « Qui tue qui ?» au Kassai, au Kivu, dans le nord Katanga et ailleurs. Certains évoquent des militaires de l'armée congolaise, d'autres soupçonnent qu'il s'agisse plutôt de mercenaires portant l'uniforme de l'armée. Avant d'évoquer la question minière, je voudrais essayer de comprendre aujourd'hui qui tue qui, selon vous, Colette Breckmann.
Mais justement, c'est la question sur laquelle on échafaude beaucoup d'hypothèses, mais on n'a pas de réponse claire. Ce qui paraît certain, c'est que l'affaiblissement politique du pouvoir central, parce qu'il n'y a pas d'accord, de consensus sur la date des élections, sur la transition, sur le passage de la transmission du pouvoir, donc cet affaiblissement donne de l'appétit à un certain nombre de milices privées, que ce soit des milices traditionnelles autour de chefs coutumiers, qui s'estiment lésés, ou de personnalités politiques qui veulent conquérir leur accès au pouvoir, si vous voulez, en lançant eux aussi des groupes armés. Donc l'affaiblissement du pouvoir central donne lieu à cela. Il y a là-dessus se greffe la répression par les forces gouvernementales qui sont, mais comme ces troubles éclatent dans plusieurs régions du pays, ces forces apparemment ne sont pas en mesure d'intervenir partout de la même façon. Et donc on se demande, c'est une question que les Congolais se posent, est-ce que le régime n'aurait pas fait appel à des troupes amies de pays voisins opérant sous uniforme congolais pour réprimer ces troubles locaux. Alors il y a un troisième soupçon.
Pardon, ça c'est très important. Ça vous paraît être une hypothèse plausible? Parce qu'effectivement, depuis des semaines, on a des informations qui nous viennent régulièrement, notamment expliquant qu'on a des anciens combattants du mouvement M23, qui est ce mouvement voilà. Du nom des accords non respectés du point de vue des rebelles du 23 mars 2009, entre les rebelles et le gouvernement, qui reviendraient en RDC après des mois d'exil du côté de l'Ouganda. Est-ce que voilà. C'est le cas très concrètement et quels sont les risques? Est-ce qu'on a possiblement un nouvel embrasement, une nouvelle guerre du Kivu comme l'avait connue la région entre 2004 et 2010?
Oui, certainement, je crois que ce qui opère aussi au Congo, c'est ce que moi j'appellerais des soldats sans frontières, qui sont des rebelles de nationalité congolaise ou qui ont la double nationalité rwandaise, ougandaise et congolaise, parce que tout ça est très très fluctuant, qui sont soutenus par des forces, soit commerciales, soit politiques, dans les pays voisins, qui s'adossent aux pays voisins et qui jouent sur des appétits pour les ressources naturelles, appétits pour une influence politique. Et tout ça est lié à l'affaiblissement du pouvoir central, où on voit cet appétit des voisins croître dans la mesure où l'État congolais ne peut pas s'y opposer, ou est complice.
Je voudrais qu'on regarde peut-être à présent les liens qu'on peut établir entre ces groupes armés et le trafic de minerais. Parce qu'on établit très souvent ce lien entre les immenses richesses minières de la RDC et puis son instabilité politique chronique. Et notamment, bien sûr, dans le Kivu, qui est peut-être l'une des régions les plus riches en ressources minières, mais aussi les plus violentes. Quel lien est-ce que vous établissez entre la crise politique en RDC et ces immenses ressources naturelles? Est-ce que ce sont ces ressources qui provoquent ces violences et ces conflits politiques, ou est-ce que ce sont les conflits politiques qui nourrissent ces conflits armés autour des zones renfermant ces richesses, Colette Breckmann?
Je crois que la faiblesse politique, la crise qui est due aux ambitions, au refus de s'entendre, à la volonté de rester au pouvoir, de ne pas permettre l'alternance ou les élections démocratiques, renforce les conflits armés, mais tous les conflits armés se nourrissent, fonctionne grâce à l'exploitation des richesses et donc aussi à la complicité des pays voisins. Par exemple, dans l'Ituri, donc le grand nord du Nord Kivu, toutes ces milices vivent de quoi? De l'exploitation de l'or qu'on trouve dans la rivière Semliki, des gisements d'or. Cet or est amené en Ouganda, où comme par hasard, c'est ouverte il y a un mois, deux mois, la plus grande raffinerie d'or d'Afrique centrale, qui va raffiner l'or qui vient du Sud-Soudan, mais aussi de l'Est du Congo, donc des régions en crise, et au Sud-Soudan aussi. La faiblesse politique provoque les guerres, et ces guerres se nourrissent. On achète des armes avec les minerais. Avec les ressources naturelles.
Mais vous avez quand même, j'ai l'impression en tout cas, vous laissez entendre quand même que la responsabilité va d'abord et avant tout à Kabila. Je vous cite, c'est ce que vous écriviez il y a quelques jours sur votre blog, à propos justement des pays voisins dont vous parliez à l'instant. Durant longtemps, il était de bon ton, disiez-vous, d'incriminer les appétits bien réels des pays voisins et d'y voir la source de tous les troubles. C'était l'arbre qui cachait la forêt et cette dernière est hélas bien congolaise. Aussi belliqueux ou gourmand qu'il soit, les voisins qui rêvent de dépecer le Congo, de le balkaniser ou tout simplement de tirer profit de ses richesses seraient incapables de le faire s'il ne pouvait compter sur des alliés locaux ou plus simplement encore s'il se trouvait en présence d'un pouvoir intègre attaché à défendre les intérêts nationaux. Là, très clairement, pour vous, la responsabilité de cette crise actuelle et de ces conflits, elle est avant tout à mettre sur le compte de Joseph Kabila.
Évidemment, parce qu'il refuse, d'organiser les élections. Il a refusé de le faire, d'organiser les élections dans les délais prévus. Et donc aujourd'hui, son pouvoir n'est plus considéré comme légitime par une grande partie de la population. Et donc cette situation de flou, de flou juridique, si vous voulez, aiguise les appétits de tous les seigneurs de la guerre qui veulent se tailler un accès à la négociation, c'est-à-dire au pouvoir, par la force des armes et qui peuvent exercer cette force des armes en étant adossés sur des intérêts étrangers, sur les pays voisins. Tout le monde joue dans une partie où les jeux sont faussés. Mais s'il y avait en présence à Kinshasa un pouvoir légitime, validé par des élections démocratiques, il pourrait opposer une résistance beaucoup plus grande à toutes les menées, à toutes les tentatives de déstabilisation ou d'agression venues des pays voisins et bénéficierait aussi d'un soutien plus grand de la communauté internationale, pour ne pas parler de l'adhésion populaire qui serait évidente à l'égard d'un pouvoir choisi par les gens et légitime. L'adhésion serait grande et donc les gens auraient envie de défendre leur pays, le pouvoir en place qu'ils auraient choisi, ce qui n'est pas évidemment, malheureusement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors pourquoi ce pouvoir veut-il rester en place? Je crois que là aussi, hélas, il faut dire que c'est ce qui joue, c'est l'appétit pour les ressources possible pour l'enrichissement personnel. Voilà.
Vous parliez de négociation et puis ensuite je passerai la parole à Pauli Bertrand Kameni. Mais vous parliez de négociation. Est-ce que cette négociation politique passe peut-être par la violence? Parce que l'accord politique dont je parlais tout à l'heure, trouvé en décembre dernier sous l'égide des évêques, évidemment, il n'a pas tout réglé, loin s'en faut. Et la répartition des postes continue de s'opposer, notamment pour c'est du côté de Dokkan d'ailleurs, qui évidemment revendique les postes les plus, disons, juteux. Et de ce point de vue-là, le ministère des Mines est extrêmement convoité. Est-ce que ces négociations politiques passent par une instrumentalisation de la violence?
Oui, bien sûr. Et donc, les négociations seraient plus crédibles si, au terme de ces négociations, des ministères importants de souveraineté étaient attribués à des personnalités considérées comme non partisanes ou, en tout cas, intègres, je pense, au milieu du ministère des Finances, l'économie et, bien entendu, le ministère des Mines. Mais si ces ministères, appelés « juteux », entre guillemets, font l'objet d'une tractation politique, la tentation est grande pour les partis en présence, de brandir soit leur capacité de mobilisation, de manifestation populaire, soit leur possibilité de recours à des groupes armés, à une recrudescence de violence, de faire pression en utilisant de tels arguments.
On reviendra dans quelques instants avec vous sur la question de la certification, mais je voudrais peut-être entendre Apolly Bertrand-Kameni, qui connaît évidemment très bien aussi cette situation de la RDC. Apolly Bertrand-Kameni, en duplex toujours depuis Grenoble.
Je pense que pour comprendre, il faudra aussi essayer d'esquisser un schéma de compréhension plus large. C'est-à-dire que on est véritablement dans un cercle vicieux, parce que s'interroger sur les acteurs locaux en position de force ou en position de pouvoir, il faut aussi préalablement se demander comment ils y sont arrivés. Donc, c'est un croisement. Les conflits dans cette région naissent d'alliances entre acteurs locaux et acteurs internationaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, si le gouvernement, si le pouvoir change de main, nécessairement, il y a un certain nombre de contrats sur lesquels les nouveaux dirigeants vont revenir. Donc, ça crée une situation dans laquelle chacun essaye de protéger sa position.
Je voudrais peut-être une dernière fois me retourner vers vous, Colette Brackmann. On a évoqué tout à l'heure les limites de la loi Dodd-Frank, mais aussi les limites de la future nouvelle réglementation européenne. Et il existe en l'occurrence aussi des processus de certification régionaux. Vous en parliez juste avant, parce qu'effectivement, les États miniers peuvent décider de mettre en place eux-mêmes ces processus de certification pour l'exportation de leurs richesses. Et il y a quelques années, justement, la RDC avait fait exactement cela. Le ministre congolais des Mines, Martin Kabwelulu, avait annoncé officiellement ce certificat régional CIRGL-RDC relatif donc à ces minerais, désignés sous le vocable de 3T pour étain, tantale et tungstène. Quels avaient été justement les effets de cette certification régionale, Colette Brackmann?
Mais elle avait été plutôt positive. Moi-même, j'ai visité au Kivu des mines qu'on appelait mines vertes, où on pouvait où opérer le processus de traçabilité et de certification. Donc, les sacs de minerais qui venaient de ces mines où des inspecteurs avaient veillé à ce qu'il n'y ait pas d'enfants, pas d'hommes armés, pas de femmes soumises à des travaux forcés, pouvaient donner un certificat d'honorabilité, si vous voulez, à cette mine qui et le minerai qui en sortait était mis dans des sacs avec un label, ce qui permettait de tracer leur origine et de à ces sacs de minerais de se retrouver sur les marchés internationaux avec si vous voulez, un certificat d'honorabilité. Et ça, c'était très efficace. Et monsieur Kabwelulu, qui avait mis ce processus en route à l'époque, est aujourd'hui un des candidats de l'opposition pour être à nouveau ministre des Mines, ce qui serait une chose très, très positive. Et c'est un des sujets en négociation en ce moment.
Merci beaucoup, Colette Brackmann, d'avoir été ce matin avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes journaliste, notamment pour Le Quotidien, Le Soir, sur lequel vous tenez un blog, Le Carnet de Colette Brackmann, sur lequel on peut obtenir beaucoup d'informations extrêmement précieuses sur cette République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Colette Brackmann.
Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Basantu nyoso bangope mindele.
On va poursuivre toutes nos interrogations autour de ces extractions minières qui, on le voit, produisent malheureusement du conflit. C'était le cas à l'instant avec la RDC dont on parlait. On vous retrouve à Poly-Bertrand Camini, toujours en duplex depuis Grenoble. Je voudrais peut-être voir les points positifs finalement de cet aspect, parce qu'il y a certains pays qui parviennent d'une certaine manière à éviter à cette malédiction des minerais. Et c'est le cas par exemple de la Tanzanie. D'ailleurs, très récemment, les parlementaires tanzaniens ont décidé de mettre en place des systèmes de contrôle des contrats miniers signés avec les entreprises étrangères. Ils ont opté pour l'interdiction par ailleurs de l'exportation de minerais bruts pour faciliter le développement d'une industrie locale. Est-ce que ça, c'est une approche de laquelle il faudrait s'inspirer à Poly-Bertrand Camini? Et puis, la question que ça pose aussi, c'est celle de l'échelle à laquelle finalement il convient d'aborder ces questions-là. Est-ce que c'est l'échelle locale? Est-ce que c'est l'échelle international? On a le sentiment que l'échelle internationale, ça a un peu échoué, en tout cas du côté de la loi Dodd-Frank, les effets attendus ne sont peut-être pas à la hauteur des espoirs. Sur cette Tanzanie, et plus généralement sur l'échelle, la bonne échelle à adopter à Poly-Bertrand Camini.
Oui, je pense que le cas tanzanien illustre plusieurs choses, dont le rapport entre les capacités politiques, la qualité de la gouvernance et plus largement la nature démocratique ou pas des institutions et une gestion beaucoup plus positive des ressources naturelles. Je pense que la question de la malédiction ne se pose pas. Ce n'est pas une fatalité. J'aimerais simplement rappeler que, malgré tout, l'une des plus grandes mines de fer se trouve en Suède, que l'Allemagne... malgré tout, a une économie relativement fondée sur le charbon, que l'un des pays les plus riches au monde, c'est quand même l'Australie qui extrait des millions de tonnes, dont je pourrais citer plein d'exemples, sans parler du Botswana. Donc, en fait, je pense
qu'il n'y a pas de fatalité.
Il n'y a pas de fatalité. L'élément central, c'est la capacité des institutions. Donc, des régimes démocratiques gèrent mieux leurs ressources que les autres.
Alors, justement, sur cette question des institutions et de l'échelle qu'il convient d'adopter, parce que vous plaidez pour une gouvernance mondiale, finalement, d'extraction des matières premières. Alors, on pourrait se demander à quoi ressemblerait très concrètement cette gouvernance mondiale. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est que lorsqu'on voit précisément l'état de la gouvernance mondiale actuelle, pensons à ces Nations Unies, capable d'imposer la paix ni en RDC dont on parlait, ni même en Syrie. Quand on voit la montée en puissance aussi des nationalismes, des souverainismes un peu partout qui gagnent du terrain des États-Unis à l'Europe, on a le sentiment finalement que le contexte géopolitique n'est pas très propice à l'émergence d'une nouvelle gouvernance et de cette gouvernance de l'extraction minière, hein, Paul-Hubert Kamény.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Voilà, c'est vrai que la situation est extrêmement complexe. Mais faut-il attendre qu'elle s'aggrave ou il faut rapidement se mettre au travail? En tout cas, je suis convaincu, et puis je m'appuie, hein, je pense qu'il faut le rappeler au moment où tout le monde, ou en tout cas beaucoup critiquent l'Union européenne. N'oublions pas qu'il y a cet exemple absolument unique qui est celui de l'intégration européenne et les parties des mines de charbon et de fer. Convoité par la France et l'Allemagne. S'il vous plaît, ne l'oublions pas. Et de la même manière, on peut voir le cas sud-africain. C'est-à-dire que pendant longtemps, on gérait les ressources derrière l'apartheid. Et il y avait cette situation unique au monde. Et depuis, les choses ne sont pas totalement rentrées dans l'ordre. Mais il y a une gestion beaucoup, beaucoup moins conflictogène. Donc, à mon avis, et cela rejoint la question tout aussi essentielle que vous posiez tout à l'heure relativement à la Chine et à l'Europe... En fait, l'idée que je propose est relativement simple. Je dirais même qu'elle n'est pas fondamentalement de moi. En fait, lorsque l'on créait la CECA, une bonne partie de l'Afrique appartenait encore à l'Europe. On parlait à ce moment-là de l'Eurafrique. Et donc, dans Monsieur Robert Schuman souhaitait que les avantages, que la dynamique de la CECA soit étendue à l'Afrique, notamment pour la mise en place des infrastructures aux fins de développement économique et social de cette partie de l'Europe d'alors. Et je me suis rendu compte que on n'en parle plus. Personne n'en parle. Et donc, nous assistons à un paradoxe qui est celui des problèmes dans la production du surplus d'acier dans le monde en général et en Europe en particulier, alors qu'en Afrique, c'est ce dont on a le plus besoin pour justement bâtir les infrastructures. Donc là, je saisis l'occasion parce que nous sommes en campagne électorale en France pour réaffirmer, pour faire appel à ce que cette idée, ce rêve de M. Schuman soit enfin réalisé, à savoir une véritable stratégie d'alliance, de coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, notamment cette zone d'Afrique centrale, où on a la plupart des matériaux qui permettront de construire les infrastructures, notamment en fabriquant de l'acier et en le distribuant, pour construire des ponts, des routes, et surtout pour construire ce dont on a besoin pour développer, pour mécaniser l'agriculture. Je pense que ce n'est pas de l'utopie. Cela s'est réalisé en Europe. Pourquoi pas en Afrique?
On va quitter l'Europe, on va quitter l'Afrique, on va prendre la direction des États-Unis. Pendant la campagne, on se souvient que Donald Trump, candidat, répétait que le dérèglement climatique est un gag, une invention des Chinois pour pénaliser l'économie américaine. Et depuis, il laisse apparaître ce retour du charbon américain dont on va parler.
Le réchauffement climatique est un canular. Nous allons retirer toutes les restrictions sur la production américaine d'énergie. On va sauver l'industrie du charbon, croyez-moi, j'adore les mineurs.
On va sauver l'industrie du charbon, j'adore les mineurs, disait Donald Trump en campagne. Et justement, sorti de la campagne la semaine dernière, maintenant Donald Trump, bien installé à la Maison Blanche, a signé ce décret abrogeant les mesures de Barack Obama sur le climat. Un coup d'arrêt pour les efforts engagés par la précédente administration. Il a donc signé ce texte entouré de mineurs, en lançant devant les caméras ce message assez clair. Mon administration met fin à la guerre contre le charbon. Bonjour Jean-Marie Martin Amoureau.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, ancien directeur de recherche au CNRS et puis auteur de cet ouvrage « Charbon, les métamorphoses d'une industrie, la nouvelle géopolitique du 21e siècle ». Il faut rappeler que ce charbon, il est encore un secteur très important aux États-Unis. C'est la deuxième source énergétique après le gaz pour la production d'électricité. Et donc ça pèse très lourd, plus lourd que le nucléaire, plus lourd que les énergies vertes par exemple. Quels sont les effets, Jean-Marie Martin Amoureau, à attendre de ce décret? Est-ce que vous pensez que ça va effectivement entraîner une nette augmentation de l'extraction, de l'utilisation de charbon aux États-Unis, et puis, évidemment, c'est ça le miracle attendu, créer des emplois.
Alors, pour bien comprendre les mesures que sont en train de prendre les nouveaux organismes mis en place par Donald Trump, il faut les replacer dans leur contexte. Les États-Unis, jusqu'en 2010-2011, produisait depuis quelques années à peu près 1 milliard de tonnes de charbon par an, produisait et consommait. Hein. Alors, étant entendu que toute la production n'était pas consommée, puisque les États-Unis étaient restés un pays exportateur, mais c'était de l'ordre du milliard de tonnes. Depuis 2011, le taux de croissance de cette consommation diminuait, et depuis 2014, la croissance aux États-Unis est devenue négative. Bon. Donc, Trump arrive à un moment où l'industrie charbonnière américaine est déjà sur sa pente. Pour quelles raisons ? Eh bien, essentiellement pour des raisons économiques, car sous l'impulsion de la croissance de la production de gaz de schiste, le prix du gaz aux États-Unis a considérablement chuté. Pour donner des ordres de grandeur, il est passé de $6 le million de BTU à moins de $3 au début de l'année passée, par exemple. Et si bien que, tout simplement, en dehors de toute considération environnementale, le charbon est devenu de moins en moins compétitif dans son principal usage, qui est celui de la production d'électricité.
Donc, si je vous entends bien, Jean-Marie Martin Amoureau, pour vous, il ne faut pas s'attendre au grand retour du charbon. On a évidemment de grandes annonces, mais il ne faut pas attendre que demain soient créés des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur-là, pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire cette question de la compétitivité. Peut-être un mot sur les difficultés du secteur américain du charbon, parce que on a d'un côté les opposants du Clean Power Plan de Barack Obama qui affirment que c'est précisément ce plan qui a participé d'une certaine manière à la destruction de beaucoup d'emplois de mineurs, et puis on a ceux qui considèrent qu'en réalité ces pertes d'emplois, elles étaient bien antérieures à l'adoption de ce plan. Qu'en est-il finalement, depuis quand et pourquoi le secteur du charbon américain rencontre les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui? C'est le gaz de schiste dont vous parliez à l'instant?
Voilà, alors, le charbon américain a progressivement perdu de sa compétitivité, disons au cours des 5 ou 6 dernières années, pour deux raisons. La principale, à mon avis, c'est pas un avis personnel, c'est le résultat de toutes les analyses. La principale, c'est une raison économique, c'est la perte de compétitivité du charbon américain face au gaz. Là, on a des courbes qui sont, je dirais, qui sont sans contestation possible. Hein. On voit, par rapport à un prix du charbon qui est très constant, qui tourne autour de $2 le million de BTU, on voit cette chute du prix du gaz depuis les succès de l'exploration des gaz de schiste. Alors ça, c'est la principale raison. Et sur cette raison économique, s'est greffée une raison plus politique, qui a été la politique d'Obama, consistant d'une part à renforcer les contraintes pour des raisons environnementales sur la consommation de charbon dans les centrales thermiques, mais aussi qui a renforcé toute une série de régulations sur les conditions d'extraction du charbon.
Mmh. Voilà. Attendez, alors justement, et ce serait peut-être mon dernier point, les conditions d'extraction du charbon, dites-vous. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison. On ne peut absolument pas comparer ce qui se passe en RDC, dans le Nord Kivu, comme on l'évoquait il y a un instant avec Apolly Bertrand Kameny et Colette Brackman, et les sites d'extraction de charbon aux États-Unis. Mais quand même, est-ce que sur ces sites d'extraction de charbon aux États-Unis, on remarque des tensions économiques, sociales, autour justement de ces sites?
Alors, les situations sont très différentes aux États-Unis, puisque vous savez que vous avez trois grands bassins charbonniers qui sont très différents. Il y a le vieux bassin des Appalaches, qui reste un bassin d'extraction en souterrain. À l'autre extrémité, vous avez le grand bassin de l'Ouest, qui est essentiellement un bassin d'extraction à ciel ouvert. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle le bassin central autour de l'Ohio, qui est à la fois du souterrain et du ciel ouvert. Alors, les problèmes sont très très différents, les problèmes d'impact environnementaux de l'extraction du charbon sont très différents dans ces trois bassins. Et à titre d'exemple, dans le cas des Appalaches, qui est vraiment le cas le plus scandaleux de l'extraction du charbon aux États-Unis, puisqu'on en était arrivé à la technique de l'arasage des collines. C'est-à-dire que pour pouvoir précisément limiter les conditions, limiter l'extraction souterraine qui est très coûteuse, un certain nombre de compagnies charbonnières n'hésitaient pas à couper le haut des collines de façon à créer en quelque sorte du ciel ouvert artificiel, avec des conséquences environnementales très graves, et en particulier des pollutions de cours d'eau contre lesquelles l'administration d'Obama s'était élevée.
Et l'une des des conséquences sanitaires aussi.
Mais bien sûr. Et l'une des premières mesures qu'a prise l'administration Trump a été précisément de supprimer ces réglementations très très strictes sur la pollution des cours d'eau par l'extraction charbonnière dans les Appalaches.
Merci beaucoup Jean-Marie Martin Amouroux de nous avoir éclairé sur ce grand retour du charbon qu'on nous annonce mais qui sera probablement pas ce que Donald Trump nous annonce justement. Jean-Marie Martin Amouroux, je rappellerai Charbon, les métamorphoses d'une industrie, la nouvelle géopolitique du 21e siècle qui était paru chez Technip. Merci à Apolly Bertrand Kameny qui était en duplex avec nous depuis Grenoble. Un grand merci également au technicien qui était à ses côtés pour assurer ce duplex. Je rappellerai à Apolly Bertrand Kameny votre ouvrage « Minerais stratégiques, enjeux africains » pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, qui était paru aux presses universitaires de France. Là aussi, on mettra la référence de votre ouvrage sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup à Apolly Bertrand Kameny. Dans quelques instants sur France Culture, on retrouvera La Grande Table avec Olivia Gesbert. Mais juste avant, comme chaque jour, à 11h53, c'est l'heure du Monde des Idées avec Brice Couturier.
Le tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on continue sur cette social-démocratie, cette crise de la social-démocratie, et en particulier en Grande-Bretagne, dans le cadre d'une crise assez générale qui concerne toute l'Europe. Le cas du Parti travailliste britannique est assez représentatif. L'érosion électorale qu'il a subie semble irrésistible. Il est aujourd'hui à 25% des intentions de vote. Et surtout, vous nous l'avez expliqué hier, son groupe parlementaire et ses sympathisants semblent avoir divorcé. Le Labour risque le schisme, Brice ?
Oui, mais les tensions qui déchirent le Parti travailliste ne font que refléter été celles qui traversent le pays lui-même, écrit Liza Nandy, toujours dans Prospect d'avril. Liza Nandy, c'est une députée travailliste aux communes qui a siégé un moment au gouvernement fantôme de Jeremy Corbyn avant de s'éloigner de ce leader. Tout le monde le dit et l'écrit, nos sociétés sont coupées en deux par les effets de la mondialisation. Vous avez d'un côté ces villes, petites et moyennes, dont les habitants sont attachés à des modes de vie et à leur communauté locale, qui aspirent à la sécurité et à la continuité. Ils voient disparaître les entreprises, puis les services publics, et ressentent un sentiment d'abandon. Comme l'écrit Julian Coman dans The Guardian, je le cite, « Les usines sont parties, remplacées par des jobs précaires et mal payés, et les syndicats ont perdu une bonne partie de leurs adhérents et l'essentiel de leur influence. C'est en effet que le nouveau capitalisme s'est affranchi de tout lien avec une nation, une région ou une localité. Aussi, les habitants de ces villes en déclin privilégient le temps passé en famille et ils veulent des emplois sûrs. De l'autre côté, vous avez les habitants des grandes métropoles dynamiques et connectées à ce qui bouge le plus vite sur la planète. Et sur des sujets aussi essentiels que l'immigration, le changement climatique, le commerce extérieur ou les droits des minorités, ces deux électorats divergent de manière de plus en plus radicale. Or, c'est chez les premiers que les partis de gauche recrutaient dans le passé la grande majorité de leurs sympathisants et de leurs électeurs. Deux partis en Grande-Bretagne ont clairement choisi leur camp. Les nationalistes de l'UKIP se posent en défenseurs des traditions britanniques et de la Little England et ils s'en prennent à l'Union européenne pour tout ce qui ne va pas. Les libéraux-démocrates, à rebours, sont les partisans déclarés d'une modernisation liée à l'Europe. Les conservateurs, quant à eux, observe Liza Nandy, ont choisi la voie de la non-confrontation et du compromis. Et pour cause, les deux tendances coexistent en leur sein, au sein de leur parti.
Et le conflit latent qui n'a cessé d'opposer conservateurs pro- et anti-européens finira bien par éclater. Une chance peut-être à saisir pour les travaillistes.
Eh bien, c'est exactement ce que croit Liza Nandy. Pour elle, les travaillistes, quelle que soit leur divergence sur l'Union européenne, ont davantage en commun que les conservateurs. Et cela s'est vu dans le passé lorsqu'il a fallu défendre le fameux système de santé britannique, le NHS. Aujourd'hui, le Labour peut donner voix à l'aspiration qui monte pour un meilleur contrôle local, pour des services publics correctement financés, pour des emplois qui aient du sens et confèrent de la dignité, et pour la vie de famille. C'est le parti travailliste qui peut exprimer les aspirations d'une majorité décente et raisonnable, je cite Liza Nandy. Comme on le voit, cette députée travailliste ne raisonne plus en termes de classe sociale, ni dans la manière ancienne, bourgeois versus travailleur, ni dans la manière moderne, métropole versus périphérie, mais selon des clivages moraux et culturels, signe des temps. Elle appelle en outre à contrer la présentation populiste des clivages selon laquelle le peuple serait homogène et frustré dans ses aspirations à la souveraineté par une élite politique elle-même unie dans sa volonté de puissance. C'est un discours paresseux, dit-elle. Notre parti, ajoute Liza Nandy, a été longtemps considéré comme le parti de l'État. Or, le rôle de celui-ci est considéré avec scepticisme par une large fraction de l'électorat. Mais nous devons faire comprendre que nous ne sommes pas un parti qui redistribue les richesses. Nous sommes le parti qui redistribue le pouvoir au sens le plus large. Nous le prouvons dans les villes que gèrent nos élus. Nous créons nos propres systèmes d'alimentation en énergie. Nous créons des crèches, le fameux système Sure Start, qui est un peu plus complexe que nos crèches. Notre objectif, c'est de rendre le pouvoir aux communautés de base. Et c'est pourquoi le Labour veut une régionalisation poussée, la fameuse Regional Devolution. Il faut aider les gens à reprendre le contrôle de leur propre vie en les accompagnant en amont. L'État ne peut plus se contenter de tendre ses filets de sécurité pour sauver de la chute les perdants du système. Dans le long papier consacré à la crise du Labour, dans le Guardian, Julian Coman évoque justement cette députée Liza Nandy. Dans le cadre de la campagne sur le Brexit, dit-il, elle s'est adressée aux ouvriers de l'entreprise Nissan de Sunderland, dans le nord-est, particulièrement touché par la crise de la Grande-Bretagne. L'encadrement de l'usine avait mis en garde les ouvriers sur les risques pour leurs propres emplois d'une victoire du Leave. « Nous, ils ne nous écoutent pas. Peut-être vous écouteront-ils », lui ont dit les dirigeants de l'usine. Mais dans sa propre circonscription, le Leave l'a emporté à 64%. Alors les politiciens des deux grands partis britanniques ont jugé le comportement des électeurs irrationnel. L'ancien ministre conservateur George Osborne a même publié un livre au titre qui résume cette pensée, The Age of Unreason, l'âge de la déraison. Mais Liza Nandy ne partage pas ce mépris. Elle observe dans sa circonscription combien les habitants sont attachés à leur identité locale. Cela fait partie de l'estime de soi et ne saurait être balayé de manière méprisante. À ce propos, elle se montre extrêmement critique envers la création de centres d'hébergement pour demandeurs d'asile dans des villages et des petites villes sans consultation préalable des populations locales. C'est traumatisant et tout bénéfice pour les racistes, dit-elle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. On peut bien sûr retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On poursuit cette crise de la social-démocratie britannique, ce sera demain. Merci beaucoup Brice. Mais pour l'heure, dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.